Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Niveau Supérieur, épisode 5, aujourd'hui consacré, sortez vos casquettes, sortez vos gants, préparez-vous à gambader dans les fourrés, parce qu'on parle de Pokémon version argent.
La montre change tout autour Pokémon Toto. On veut tous être le meilleur dresseur et prouver de quoi on est capable. On veut tous se montrer à la hauteur d'un destin qui paraît incroyable. Chaque jour qui passe, tu progresses et tu deviens plus fort. Tu te surpasses, continue et tu t'améliores. Le monde change tout autour de nous. Le monde change et devient flou. Le monde change, c'est fou. Il reste le même après tout. Car il faut tous les attraper. Être le plus déterminé. Pokémon Johto. Le monde change tout autour de nous. Car il faut tous les attraper. Être le plus déterminé. Pokémon Johto. Pokémon Johto.
J'espère que ça va bien. Bon, je vais pas encore m'excuser du retard. Voilà, on est sur une pente glissante où je commence à avoir du retard et tout. Je sais, j'espère pouvoir me rattraper, que les vacances me permettront de faire un ou deux épisodes de plus et d'en avoir sous le coude. J'espère. Le problème, c'est que j'ai du travail. Et oui, en plein pendant la saison des JRPG. Je vous rappelle, l'été, c'est la saison des JRPG. Et moi, j'ai quoi pendant ce temps-là? Du travail à faire. Super. Comme quoi, il n'y a pas de respect. Les fêtes nationales n'ont plus le poids qu'elles avaient avant, apparemment. Hein, les 2 mois sacrés, consacrés aux JRPG ne sont plus respectés. Du coup, bah, je fais comme je peux, hein. J'essaye de maintenir en vie cette tradition, mais c'est un peu dur. En tout cas, on va se replonger dans nos souvenirs d'enfance, dans aussi nos souvenirs d'il y a quelques années, où il y a eu l'été de Pokémon, pour parler de Pokémon version argent, donc la deuxième génération. C'est une série de 3 jeux, hein. Argent, or et après cristal. Nous, on parle que de la version argent. Je sais pas pourquoi, c'est celle que j'ai achetée sur la console virtuelle, sur la... Le store de la DS il y a quelques années. Peut-être parce que l'argent c'est le moins précieux. Du coup, comme ça, si je le casse, c'est moins grave. J'ai pas remboursé un truc en or ou un truc en cristal. Peut-être c'est ma réflexion, je ne sais pas. J'essaie de comprendre pourquoi j'ai pris cette version-là et pas la version cristal, ce qui aurait été plus logique puisque c'est la version un peu définitive. Mais c'est comme ça. On fait la version argent. La version argent et or, les deux sont sortis en 99 au Japon, en 2000 aux États-Unis et en 2001 chez nous. Ça commence à. Ça fait 20 ans et. À chaque fois, je fais même pas exprès, mais je fête un peu les anniversaires des jeux. Donc voilà, pour nous, petits Français, ça fait 20 ans que c'est sorti. Donc c'est l'occasion d'y revenir. Je fais genre j'ai préparé, mais c'est l'occasion d'y revenir. Sur le phénomène Pokémon, la Pokémania.
Personne ne semble pouvoir désormais échapper à l'invasion japonaise de Léviator, Dragon de Feu et autres ectoplasmas. Ce sont les Pokémon qui a gagné les poches, la fièvre Pokémon qui a gagné la poche des écoliers. Ces petites cartes à collectionner à la folie font l'objet de toutes les convoitises et préoccupent certains responsables d'établissements au point qu'ils souhaitent en interdire le trafic dans leur enceinte. Virginie Ducroquet, Pierre Brasquez.
Ce sont des jeux sortis sur Game Boy et Game Boy Color. Donc c'est des nouveaux supports pour nous. Les premiers jeux Pokémon de la première génération, donc rouge, bleu, vert, jaune, ils sortent en 96 au Japon, en 99 chez nous. Donc déjà à des moments où la Game Boy elle est sortie depuis quasiment 10 ans. Donc pareil pour cette version-là, 2001, ça sort plus de 10 ans après la sortie de la première Game Boy, donc sur un support portable, un support qui commence à être vieillissant, mais qui retrouve son dynamisme justement grâce à Pokémon. Donc c'est assez intéressant d'imaginer un jeu qui doit rentrer dans un hardware assez ancien, assez vieux, donc les limitations techniques, on pourra en reparler éventuellement. Mais ouais, c'est un jeu qu'on peut emmener partout, mais du coup un jeu qui a beaucoup de limitations techniques et qui pourtant arrive à créer un phénomène, on va en parler. Du coup, c'est assez intéressant de revenir dessus, parce qu'on y a tous joué sûrement, d'une façon ou d'une autre, quand on était petit, quand on était enfant. On se souvient, on a beaucoup de souvenirs. En plus, c'est une série qui continue à sortir des jeux. Du coup, Pokémon, ça continue. Les gamins, encore aujourd'hui, ont des cartes Pokémon, jouent à Pokémon. À la dernière version sortie sur Switch, épée bouclier, ou aux versions d'avant sorties sur 3DS, Soleil et Lune. Du coup, ça continue. C'est encore une licence qui est présente à notre esprit, autant parce qu'elle continue à exister quotidiennement, on va dire. Il y a eu Pokémon Go, bien sûr, aussi. J'en parlais tout à l'heure, l'été Pokémon. Et c'est aussi une licence avec laquelle on a beaucoup de nostalgie, de souvenirs affectifs. Et du coup, rejouer à ça, pour ma part, aujourd'hui, c'était assez intéressant, avec mes yeux d'adulte, l'analyser un peu différemment. C'était une expérience assez intéressante, on va pouvoir en reparler. Et vous allez pouvoir vous aussi vous replonger dans vos souvenirs et les comparer à la réalité que je vous offre. C'est un peu un bien grand mot de vous offrir la réalité, mais en tout cas vous permettre de vous replonger dans vos souvenirs et de les comparer à des choses un poil plus objectives parce que j'ai plus 8 ans et vous non plus. D'ailleurs, c'est l'occasion d'en parler. Mon histoire avec le jeu, c'est peut-être comme beaucoup d'entre vous, d'y avoir joué quand j'étais petit sur Game Boy, à l'époque où c'est sorti du coup. J'avais les versions bleues, or et argent. Et il y a un traumatisme là-dedans. Vous sentez, je commence un peu à avoir la voix qui tremble. Parce que j'ai perdu mes 3 cartouches avec chacune, facilement plus de 100 heures de jeu sur chacun. Et je les ai toutes oubliées dans un train, en revenant de vacances. Voilà. Donc ouais, un drame, tout simplement. C'est horrible. Peut-être c'est pour ça que je finis plus mes JRPG. Peut-être là, je suis en train de découvrir un truc psychologique sur moi. Je finis plus mes JRPG parce qu'à l'époque, j'avais tout mis dedans. Tout mis, mes 300 heures dans 3 cartouches différentes. J'étais à donf, je voulais tout compléter et j'ai tout perdu. Donc à quoi bon vouloir compléter les JRPG quand on sait qu'ils peuvent disparaître comme ça d'un coup dans un train SNCF parce qu'on les oublie, parce qu'on est petit et un peu tête en l'air. Donc qui sait, peut-être que c'est pour ça que je n'ai plus autant fini mes jeux après. En tout cas, j'ai été très triste, j'ai beaucoup pleuré pour Pokémon, pour mes 300 heures. Donc il y a un rapport affectif, hein. Je me souviens aussi avoir attendu comme un fou toute la matinée sur TF1 que le premier épisode de la série animée arrive. Pareil, j'étais à donf parce que je lisais Kidsmania, hein, peut-être comme beaucoup d'entre vous, et du coup je savais que l'épisode allait arriver, puis il y avait des pubs sur TF1. Je me souviens aussi des cartes Pokémon échangées dans la cour de récré. Il y avait un rapport important à Pokémon. J'avais aussi un Pikachu en peluche, je crois. Bref, j'étais vraiment partie prenante de la Pokémania. Du coup, j'ai une histoire avec la série. J'ai pas tant joué que ça après aux autres épisodes. J'ai dû jouer un peu à Noir et Blanc, un peu à XY, un peu à Soleil et Lune, par-ci par-là. Je les ai commencés sans jamais trop aller loin. Du coup, c'est vraiment ces premières versions dans lesquelles j'ai tout mis avant de les oublier dans un train. Voilà. Le train de la Pokémania est parti sans moi. Chou-chou, le petit train. Bref, Pokémon version argent, est-ce que ça vaut encore le coup? Est-ce que c'est aussi bien que le phénomène que c'était pour nous en tant qu'enfants et que ça a été à l'époque où c'est sorti parce que c'était nouveau, c'était incroyable, il y avait une machine marketing avec. Qu'est-ce que ça vaut Pokémon argent aujourd'hui? C'est ça la question. Pokémon, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est une série de jeux créée par le studio Game Freak, qui lui-même est un studio créé par Satoshi Tajiri et aussi son pote Ken Sugimori. Le nom du studio vient d'un fanzine que faisait Tajiri dans sa jeunesse, un fanzine sur le jeu vidéo, fanzine dans lequel dessinait Ken Sugimori, et ensuite ils ont créé tous les deux un studio de jeux du même nom que leur fanzine. Et ils ont très vite commencé à bosser pour Nintendo. Ils ont fait Mario et Yoshi, ils ont fait Mario et Wario, je crois. Et en 96, ils font Pokémon. Sauf que le projet est né bien 6 ans avant, dès que la légende veut que Tajiri, en voyant des câbles Link reliant des Game Boy, a imaginé des insectes qui couraient sur les câbles, comme si on pouvait se les échanger de Game Boy à Game Boy. Et c'est de là que serait partie, selon la légende, l'idée de Pokémon. Parce que Tajiri a toujours été assez marqué dans sa jeunesse par le fait de capturer des insectes, de les échanger avec ses copains, de se les montrer, etc. Et c'est ce qu'il voulait retrouver comme ambiance, comme expérience avec Pokémon. C'est ce que raconte Miyamoto dans une interview de 2018 où il parle de la naissance de Pokémon, parce que Miyamoto, donc Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario, Zelda et tout, était pote avec Tajiri. Il l'a un peu coaché pendant la phase de création assez longue du projet Pokémon, vu que Tajiri bossait pour eux sur d'autres jeux. Il y a aussi Gunpei Yokoi, le créateur de la Game Boy, qui a pas mal aidé apparemment Tajiri dans cette longue phase de pré-production, de production, de réflexion, pour arriver au final au jeu en 96. Parce que du coup, pendant 5-6 ans, il faisait d'autres jeux pour Nintendo, et il y avait toujours cette idée derrière la tête de Pocket Monsters, de Pokémon du coup, qui faisait son petit bout de chemin, qui était peut-être un peu dur à mettre en place, mais du coup, ils essayaient d'y réfléchir, et il avait l'aide d'autres grands noms du jeu vidéo, et s'en est devenu aussi de toute manière lui aussi. Et Ken Sugimori, du coup, le pote de Tajiri, était là aussi, et c'est lui qui est responsable de la plupart des designs de Pokémon. Outre le côté Trivial Pursuit intéressant de ces anecdotes, c'est intéressant de se dire que le projet a démarré en voulant retranscrire une expérience directement sociale, puisque le câble Link est lié à l'enfance, est lié surtout à l'exploration, à l'aventure, etc. C'est ça qui motive la création du jeu, et c'est ce qui explique, je pense, que Pokémon, c'est un jeu assez différent des JRPG qu'on a fait jusqu'ici, parce qu'il n'est pas centré sur l'histoire. Ce qui compte le plus, c'est les mécaniques de jeu et les designs. Donc là, on peut commencer par ça, parce qu'on voit en premier par les graphismes et du coup par le design des monstres, qui, effectivement, est assez impressionnant, assez attachant, surtout vu les contraintes techniques de la Game Boy. Réussir en si peu de pixels à évoquer et créer des créatures attachantes, il y a beaucoup de designs qu'on connaît très bien, je sais pas, quels sont vos préférés, dites-moi par SMS. Mais ouais, Pikachu, bah, c'est un bon design, Ronflex, on aime bien, Rondoudou, Bulbizarre, Carapuce, Salamèche, bref, tout cela, ils ont des designs assez forts. Là, on est dans la deuxième génération, avec Pokémon Argent. Il y a toujours des designs assez cool, mais on commence déjà à voir certaines redites, on va dire, ou certains designs un peu moins inspirés. Je sais pas, c'est vrai que Marill, il est grave stylé, par exemple, dans la deuxième génération. Kaiminus, plein d'autres. Togepi aussi. Donc ouais, il y a encore des designs assez mignons, assez cool. Mais il y en a certains qui sont un peu plus discutables, peut-être un peu plus... qui commencent déjà à ne pas ajouter grand-chose à un animal normal. Je sais pas, Donphan, Écrémeux... C'est un éléphant et c'est une vache, quoi. Il n'y a pas grand-chose en plus. Je suis pas en train de critiquer spécialement, c'est juste qu'il y a 251 Pokémon, créatures, créées à l'époque de Or et Argent. La plupart sont vraiment efficaces. Certains commencent à être un peu, pas discutables, mais juste, c'est dur de faire 251 bonhommes. Parfois, c'est un peu mieux réussi que d'autres. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, où on en est, il y en a presque 1000. Forcément, on a plus l'habitude de critiquer les designs parce que ça se renouvelle pas, parce que c'est un peu discutable. Mais franchement, dans la plupart des cas, il y a des bons designs efficaces, surtout sur Game Boy, quoi. Encore une fois, c'est assez fou de pouvoir retranscrire à la fois le type de Pokémon, son apparence et du coup son comportement, ou sa vibe, on va dire, quoi. Son ambiance, son caractère, avec si peu de pixels, vu que c'est une machine assez ancienne à l'époque où le jeu sort. Donc quand même, Sugimori, assez impressionnant, assez balèze. Pikachu, c'est lui qui l'a fait, c'est un design qui maintenant est connu partout, parce que il a quelque chose, il parle, il est mignon, on a envie de lui faire des câlins, que ce soit notre copain, et en même temps on sait qu'il peut être un peu féroce, enfin je sais pas, il fait penser à un petit chat mignon mais avec du caractère quoi, même si c'est une souris, laissez-moi tranquille. Mais bref, bravo Ken Sugimori, c'est ce qu'on peut dire, et les designs sont ce qui est le plus important parce que c'est ce qui va nous permettre de nous attacher au Pokémon, et le but premier c'est de nous attacher, puisque le jeu vient de l'expérience des insectes qu'on trouve super, qu'on veut échanger, qu'on veut garder. C'est le plus important, c'est ce sur quoi repose le jeu. Le design, l'attrait qu'on peut avoir, soit qu'il soit puissant, soit qu'il soit mignon, il faut qu'il soit en tout cas attrayant et qu'on puisse s'y attacher, qu'on puisse construire quelque chose dessus. Parce que, comme on l'a dit, comme je l'ai dit et comme je vais le redire, l'histoire, le scénario en tant que tel, contrairement aux autres JRPG qu'on a fait jusqu'ici, n'est pas ce qui est le plus important. D'ailleurs, dans une interview donnée en 2000, Sugimori dit bien que les designs sont ce qu'ils font en premier dans un jeu Pokémon. Avant toute idée d'histoire, de scénar, blablabla, ce sont les designs qui priment. C'est normal en même temps, il faut qu'on ait envie de les collectionner. Si on doit tous les attraper, il faut qu'on puisse avoir envie d'avoir celui-ci, celui-là, etc. Et je pense d'ailleurs ce qui est assez intéressant, parce que du coup c'est un jeu qui repose sur la collectionnite, on va dire, sur l'envie de collectionner plein de Pokémon, donc il faut que les designs nous plaisent, que le plaisir qu'on a à collectionner, à attraper, à avoir tel design, donc tel Pokémon, et pas un autre, ou alors justement, je veux choisir celui-ci plutôt que celui-là, etc. C'est un peu lié à un plaisir un peu capitaliste, on va dire, de client qui a un large choix devant lui et qui peut choisir ce qu'il veut. Imaginez-vous face à un buffet à volonté, je sais que je fais toujours des métaphores avec la bouffe, mais tant pis, c'est trop bien. Dans un buffet à volonté, on peut se dire, waouh, j'ai tous ces choix-là, qu'est-ce que je veux ? Est-ce que je veux des Des brochettes bœuf fromage? Est-ce que je veux des petits makis? Est-ce que je veux des patates sautées? Qu'est-ce que je veux? Ben, je vais prendre un peu de tout. Ben là, c'est pareil. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux un snubble? Est-ce que je veux un azumarill? Est-ce que je veux un petit tard? Ah, j'aime bien les trois. Je vais commencer par celui-ci. Peut-être qu'après, je vais revenir à celui-là. Du coup, ouais, je pense qu'il y a une comparaison à faire entre l'état du client qui a plein de choix. Et on sait que ce qui est intéressant pour le capitalisme en général, c'est de nous proposer toujours plus de choix, de nous donner l'illusion qu'on peut choisir ci plutôt que ça, qu'on doit même se définir à partir des choix de ce qu'on va consommer. Là, pareil, on va se définir en tant que dresseur Pokémon à travers les bonhommes qu'on va choisir, les Pokémon qu'on va choisir. Et du coup, il y a la même idée de « j'ai plein de choix, c'est important que je choisisse, ah, trop bien d'avoir plein de choix ». Je vais pouvoir m'exprimer en tant que personne en choisissant ceci plutôt que cela. Et voilà. Et au final, qu'est-ce qu'on fait? On nourrit le grand capital. En même temps aussi, on s'amuse. Hein. On mange bien ou on devient un super dresseur. Mais je pense qu'il y a un petit lien de parenté entre ces deux expériences, ces deux états de client qui a une éventail de choix ou de joueur qui a un éventail de Pokémon à capturer. Voilà. Bon, c'est peut-être un petit peu bancal, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. J'espère en tout cas. Pour finir du coup sur l'aspect visuel des jeux Pokémon, je l'ai dit, c'est des jeux qui sortent sur Game Boy et Game Boy Color à une époque où la Game Boy et la Game Boy Color sont des supports vieillissants. Du coup, il y a très peu de possibilités d'exprimer visuellement des choses incroyables et tout. Ça se fait avec peu de pixels. Du coup, ça permet de créer une ambiance assez intéressante. On y reviendra peut-être dans le scénario, mais avec très peu, ils arrivent vraiment à évoquer beaucoup de choses. C'est très abstrait, très minimaliste. Ça évoque, ça ne peut pas représenter fidèlement, ça ne peut pas aspirer à une représentation graphique hyper réaliste, mais ça arrive à jouer avec ça pour, avec peu de choses, évoquer beaucoup, je trouve. On va en reparler. Et pour finir, parce que le jeu s'adresse à des enfants, et ce qui est intéressant, je trouve, c'est la séquence d'intro quand on crée son dresseur ou sa dresseuse, qu'on choisit son nom, parce que quand on définit son bonhomme, on est face à un sprite assez grand, bien modélisé, avec la petite casquette et tout, l'image du dresseur Pokémon classique qui sera reprise dans l'animé. Et une fois que c'est fait, qu'on a sélectionné tout ça, on voit cette image, ce sprite grande version, se rapetisser en version pixel, parce que c'est la version qu'on va voir à l'écran tout le long, la version qu'on va diriger dans le monde quand on va explorer. Et du coup, il nous montre cette transformation en vision un peu jolie, grand sprite, celle qu'on voit dans les combats, qui ne bouge pas du coup, donc le dessin un peu plus grand, un peu mieux modélisé, il nous montre cette version-là devenir un petit bonhomme en pixels qui, haut comme 3 pommes, haut comme 3 pixels, qui sera celle qui sera avec nous tout le jeu. Et le fait qu'il nous montre ça, ce passage de l'un à l'autre, je pense que c'est pour expliquer au jeune public, à ceux qui n'ont peut-être pas encore fait de JRPG, ok, c'est un monde d'abstraction, de symboles, il faut que vous compreniez que ce petit bonhomme que vous dirigez, il est censé représenter cette version stylée du dresseur. Et peut-être qu'il n'aurait pas eu à montrer cette transformation de sprite à petit pixel si ce n'était pas un jeu qui se voulait accessible et jouable par des enfants, peut-être par des gens pour qui ce serait le premier JRPG. Donc je trouve ça assez intéressant qu'il s'adapte aux limitations techniques graphiques de la Game Boy et qu'il montre l'adaptation, le processus de « regardez, on n'a que ça pour le représenter, mais il est censé représenter ce bonhomme plutôt stylé, même s'il ne l'est pas vraiment à l'écran ». Donc c'est assez intéressant, et on va y revenir je pense, parce que justement, j'ai dit que l'histoire n'était pas très importante, même pour les designers du jeu, puisque c'est pas ce qu'ils faisaient en premier, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de scénario qu'il n'y a pas d'histoire. Allons voir ça de plus près. Je pense que vous le savez, concernant l'histoire de Pokémon, vous incarnez un dresseur. Je crois que les dresseuses arrivent plus tard, la possibilité de jouer une dresseuse. Vous devez devenir le plus fort des dresseurs Pokémon en vous baladant dans une certaine région. Pour or et argent, c'est la région de Johto. Donc faire des combats d'arène, récupérer leur badge pour dire « Hey, je suis plutôt pas mal ». en dresseur Pokémon, et vous devez aussi, à côté, mener une sorte de mission scientifique et remplir un Pokédex, donc capturer tous les Pokémon pour avoir des infos sur eux. Ça, c'est le truc de base, et l'histoire ne va pas vraiment plus loin que ça. Vous avez un rival, un dresseur rival qui a volé un Pokémon, et du coup, vous devez l'affronter parce que lui, il représente des mauvaises valeurs. Et il y a aussi une équipe de méchants, la Team Rocket, qui veulent exploiter les Pokémon pour le profit. Et voilà, l'histoire est très fonctionnelle. Je pense que c'est le premier JRPG qu'on fait qui ne cherche pas à raconter une grande histoire, une grande épopée, qui se concentre beaucoup plus sur les mécaniques. C'est assez intéressant, c'est un autre style de JRPG qui est un peu moins cinématique, un peu moins narratif, qui se repose avant tout sur ses mécaniques de jeu. Et ça correspond à une lignée de JRPG qui existe, qu'on n'a pas encore trop évoqué nous ensemble, parce que moi j'aime bien les JRPG avec des grandes histoires, mais vous prenez des JRPG comme la série des Etrian Odyssey ou d'autres jeux de ce style, les histoires sont très peu importantes, ce qui compte c'est les mécaniques, et on est là plus pour poser une ambiance et un truc autour des mécaniques que pour vraiment raconter une histoire. Et c'est le cas pour Pokémon. Le jeu passe beaucoup de temps à créer, c'est une sorte d'ambiance en fait, une sorte d'ambiance qui mêle un côté très terre-à-terre, très quotidien, mondain, avec cette idée de Pokémon, de monstre un peu extraordinaire. On est censé croire que dans cet univers, où on est un petit gamin avec sa maman, qui va de village en village, avec une architecture pas du tout fantasy, hein, des petites maisons, voilà, y a des centres commerciaux, il y a des bateaux, il y a des trains, enfin, il y a tout ce qu'il faut, quoi. C'est une sorte de ville d'univers un peu moderne. On est censé croire que dans tout ça, il y a des Pokémon à côté. Donc ça ancre dans une vision un peu terre-à-terre quelque chose d'extraordinaire. Et cette tension, c'est ce qui fait l'ambiance de Pokémon, qui du coup ne cherche pas à créer de l'épique à tout prix, contrairement à FF4, contrairement à Tales of Vesperia ou à Dragon Quest. On n'est pas dans de la fantasy, on n'est pas dans de l'épopée. On est dans un truc plus chill, quoi, plus cool. Et même les petites phrases cheloues que vous donne chaque dresseur, quand on les combat, je pense que vous avez ça en tête, j'en ai pas... Notez, mais à chaque fois que vous croisez un dresseur avant un combat, il vous donne une petite phrase un peu sortie de nulle part, un peu bizarre. Même leur design, je sais pas, il y a des campeurs, il y a des écoliers, enfin c'est des personnages du quotidien qui eux aussi font des combats de dresseurs qui du coup sont des personnes comme vous et moi, on est censé imaginer ça, qui à côté font des combats de Pokémon. Donc le jeu passe beaucoup de temps à créer une ambiance, une atmosphère qui peut-être est inspirée de Earthbound, de Mother d'ailleurs, qu'on fera dans deux émissions. On verra si on peut créer un lien, j'y ai pas encore joué, c'est l'impression que j'ai seulement avant d'y jouer. Mais en tout cas, voilà, c'est le jeu crée plus une ambiance, une atmosphère qu'un véritable scénario. Il y a, en fait, le scénario, il est presque, c'est un schéma narratif, c'est presque un schéma, quoi. Il y a un mentor qui vous donne un objet magique, il y a des adjuvants qui vous aident un peu, et il y a des opposants, des adversaires. C'est limite un cours de français sur le schéma narratif, l'histoire de Pokémon, tellement elle est minimaliste, et tellement cette histoire est vraiment basique, quoi. D'ailleurs, un petit big up pour la traduction française qui est super, qui permet de bien retranscrire l'ambiance un peu marrante, chelou, absurde de Pokémon. Les dialogues sont super drôles, il y a des expressions amusantes. Donc ouais, la traduction française joue beaucoup pour retranscrire cette ambiance tranquille, un peu urban fantasy, peut-être on pourrait dire. C'est-à-dire une sorte de chose extraordinaire ancrée dans la réalité, dans le quotidien. Donc ouais, c'est un univers mignon, marrant, attachant, mais il n'y a pas vraiment de scénario global, quoi. À part devenir le plus fort et avoir tous les Pokémon. Ce qui compte, c'est les mécaniques de jeu. Et ces mécaniques ont suffi au succès de Pokémon. Au Japon, en tout cas en 96, quand le jeu sort, il n'y a pas encore l'animé, les cartes et tout, il y a juste le jeu. Et le jeu fonctionne hyper bien. Et peut-être qu'il fonctionne aussi bien au Japon parce que c'est un public qui a l'habitude des JRPG. À l'époque, en Occident, en France, peu de JRPG sortent. On en a déjà un petit peu parlé dans d'autres épisodes. Quand il sort en 99 chez nous, du coup... C'est pas encore un genre qui a le vent en poupe, même si ça commence, parce que je crois que 99, ça doit être le moment où sort, où est déjà sorti FF7. Mais du coup, c'est assez nouveau, assez récent pour nous. Et au Japon, ça l'est pas du tout. Les joueurs et les joueuses sont habitués à ce genre d'aventure, à ce genre de système de jeu, parce qu'en plus, c'est même pas le premier Pokémon, c'est même pas le premier jeu qui insiste sur la capture de monstres. C'est peut-être le jeu qui s'en sert le plus, qui fait cette mécanique quelque chose de central, mais il y a d'autres jeux avant celui-ci, avant Pokémon, qui proposaient de la capture de monstres, etc., des combats de monstres et tout. Notamment Dragon Quest V, je crois, et peut-être aussi un jeu de la série des Shin Megami Tensei, qui est la grande série de JRPG dont Persona, que vous ne savez peut-être, est un spin-off. Bref, des détails, on s'en fout. Tout ça pour dire que nous, on a pris Pokémon en pleine face, et que cette ambiance, cet univers qui se construit dans le jeu était en plus construit pour nous, petits joueurs français et petites joueuses françaises, via les cartes, via l'animé, via les mangas. Du coup, ces mécaniques de jeu, cette histoire un petit peu pauvre, qui repose surtout sur une ambiance, était complétée par toute la machine médiatique qu'il y avait autour. On regardait l'animé, on avait des cartes, etc., etc. Du coup, même si le jeu n'offrait que peu de scénarios, il offrait une ambiance qui était déjà assez évocatrice, assez innovante, parce que bah, c'était rare d'avoir des aventures dans un monde un peu moderne, et tout ça était complété par l'animé. Et c'est assez incroyable, du coup, de se dire que pour compenser et pour faire accepter à un ensemble de joueurs et de joueuses jeunes qui ne connaissent pas trop ce genre, on a utilisé une expérience multimédia, transmédia. En plus, à l'époque, c'était très à la mode, le mot multimédia, dans les années 2000. On a utilisé ça pour compléter un peu et rendre ça plus accessible ce que doit être une aventure de JRPG, qui est une aventure au long cours, assez longue, assez incroyable, dans laquelle on doit s'investir pour vraiment forcer les gens à s'investir. Et bien, il y avait l'animé, et bien, il y avait les cartes, etc., etc. Parce que nous, peut-être qu'on n'aurait pas autant kiffé Pokémon en tant que joueurs occidentaux qui ne connaissaient pas trop ce genre si on n'avait pas eu un truc pour nous aider à nous mettre dans l'aventure, à nous y plonger, à nous faire aimer cet univers, pas seulement à travers des pixels, pas seulement en nous faisant comprendre avec la séquence d'intro que ce bonhomme stylé devient 3 pixels. Là, il y avait l'animé en plus. Il y avait les cartes en plus. Donc je pense que c'est assez intéressant. Et Tajiri a toujours voulu faire un jeu hyper mainstream. Il voulait surpasser Mario. Et pour le faire, bah, il fallait, peut-être pas au Japon du coup, parce que c'est un genre qui était déjà plus ancré, même si bon, sûrement que ça a contribué au succès de la série, hein, les animés, les mangas, les cartes et tout. Mais le jeu est sorti tel quel au Japon, sans rien. Et chez nous, pas du tout. La machine a pu se mettre en place, la machine médiatique, pour proposer une expérience d'un coup multimédia. J'ai le jeu, j'ai l'animé, j'ai les cartes. Du coup, je peux vivre dans l'univers, je peux comprendre l'univers et compléter ce qui manque dans le jeu en tant que tel à travers d'autres médias. Et malgré ce que je dis, malgré le fait que l'histoire ne soit pas importante, malgré le fait que le jeu se concentre surtout sur une ambiance qui en plus est construite à travers d'autres choses que le jeu est quand même conscient de sa mythologie et joue avec, parce que dans Pokémon Or et Argent, à la fin du jeu, quand on a vu le générique de fin, il y a en fait un autre jeu qui s'ouvre, et on peut retourner dans la région de Kanto, la région de Pokémon bleu, rouge, vert, jaune, pour refaire les arènes, et à la fin, pour affronter Blue, le rival de Pokémon Rouge, et ensuite affronter Red, du coup, ce qui est censé être Sacha dans l'animé, hein. Et du coup, il joue avec la mythologie, et c'est super de retourner sur les lieux de la première aventure, de la refaire, et même de confronter les héros du premier jeu. C'est super fort, parce que Pokémon Or Argent se passe 3 ans après Pokémon Rouge et Bleu dans l'histoire, et du coup, le jeu avec la mythologie, il est super. Enfin, même moi, là, quand on y rejoint, j'étais très content de pouvoir croiser l'ancien rival d'un jeu précédent et même le héros du jeu précédent. D'ailleurs, j'ai pas réussi à le battre, je peux vous le dire, je peux l'avouer. Red, du coup, le héros de Pokémon Rouge, il est trop fort. Et il y a des Pokémon niveau 80, les miens étaient niveau 50, j'avais pas 10 heures à tuer pour grinder et du coup le battre. Donc ouais, j'ai fini le jeu en récupérant tous les badges de Johto et de Kanto, mais j'ai pas battu Red. Voilà, j'avoue, désolé. En tout cas, ouais, le jeu joue avec sa mythologie. Il est quand même conscient que même sans un scénario très développé, il a quand même installé une ambiance des personnages et que les gens ont une attache affective. On va y revenir sur ça. Et du coup, il joue avec et c'est très bien fait. Et c'est assez fou. Et petit détail technique, petite anecdote triviale poursuite encore. Pour caler dans une cartouche de Game Boy 2 régions, c'était un fait technique assez incroyable, et c'est Satoru Iwata qui apparemment a pu faire sa petite magie de programmeur de talent pour faire rentrer tout ça dans une seule cartouche de Game Boy. Satoru Iwata qui du coup sera plus tard le président de Nintendo, qui est mort il y a peut-être 5 ou 6 ans et qui a été le président de Nintendo à l'époque de la Wii, de la Wii U, de la DS, de la 2DS, etc. Un président assez important au sein de Nintendo et qui avant ça était programmeur et qui du coup avait apparemment assez d'ingéniosité pour combler un manque technique et nous permettre de revisiter Kanto, la première région, dans Pokémon Or et Argent. Tout ça pour dire que Pokémon, pas une histoire de ouf, on est au courant, mais une atmosphère, une ambiance vraiment stylée et en plus une machine médiatique qui permet de continuer l'expérience en dehors du jeu et du coup de la compléter. Pour nous qui étions petits, qui peut-être n'aurions pas pu, peut-être que si, hein, peut-être que je me trompe, mais peut-être qu'en ne connaissant pas trop le JRPG, on n'aurait peut-être pas pu autant s'investir parce que c'est un genre assez complexe, et en plus c'est des graphismes assez minimalistes, du coup peut-être qu'on serait un peu passé à la trappe, passé à autre chose rapidement, si on n'avait pas eu tous ces autres médias pour vivre dans l'univers de Pokémon, même quand on jouait pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on y fait dans cet univers incroyable, cette ambiance si particulière? On explore beaucoup. Là, je parle du gameplay hors combat, qui du coup est assez classique. Hein. Il y a des magasins, il y a des gens à qui parler. Peu de quêtes annexes, quelques mystères à résoudre par-ci par-là, justement basés sur l'exploration. Le monde est assez intelligemment construit, au sens où l'exploration va être guidée et empêchée à certains moments par des capacités qu'on doit acquérir, couper un petit arbre... pouvoir surfer sur l'eau, pouvoir éclairer des grottes. Donc, exploration un peu contrôlée, un peu guidée, un peu comme dans un Metroidvania, même si peut-être que je m'avance un peu en disant ça. Mais du coup, c'est ce qu'on fait le plus. Et ce qui est intéressant dans cette exploration, c'est deux choses, bon, sûrement plus, mais moi, c'est deux choses que j'ai relevées. D'une part, il n'y a pas de carte du monde, il n'y a pas de transition entre le moment où on est dans un village et le moment où on est hors d'un village. Alors, dans beaucoup de JRPG, dans des FF et tout, il y a une carte du monde qui est séparée des donjons, des villages, qui du coup rajoute un niveau d'abstraction. Là, c'est pas le cas, c'est sans transition, on passe d'un village, on va sur une route, hop, rien ne coupe. Ce qui est assez agréable, ce qui rend l'expérience un peu plus unie, on va dire. On a moins de travail à faire pour, comme j'en parlais dans Tales of Vesperia, associer plein d'éléments un peu disparates. Ok, là je suis dans la carte du monde, là je suis dans un donjon, c'est moi qui dois faire le lien entre les deux pour dire, pour faire la transition un peu dans ma tête. Là, il n'y a pas besoin de faire ça. Il y a toujours besoin de faire ça pour les combats, parce que les combats sont toujours abstraits et séparés de l'expérience globale. Mais là, pour ce qui est de l'exploration, elle est uniforme, homogène. Et dans cette exploration, ce qui est intéressant aussi, c'est que les Pokémon n'apparaissent que dans les hautes herbes, ou bien dans les grottes, ou bien dans l'eau. C'est-à-dire que si on est sur une route sans hautes herbes, on ne se fera pas attaquer. Du coup, il y a une sorte de séparation entre le sauvage, on va dire, même si c'est un mot un peu problématique niveau conceptuel, entre ce qui n'est pas civilisé, pareil, c'est un peu... bon, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Entre ce qui est contrôlé et ce qui n'est pas contrôlé. Entre des espaces, comme je dis, contrôlés, sûrs, et des espaces dangereux, entre guillemets, où on peut être en danger. Et du coup, cet équilibre entre les moments de... sûreté, donc les villages, et les endroits où on peut se faire attaquer, il est assez commun au JRPG, puisque on sait que dans un village on est tranquille, alors que dans un donjon on l'est pas, et que sur la carte du monde souvent on ne l'est pas non plus. Mais là, c'est un peu plus précis, c'est un découpage un peu plus subtil, puisque même sur les routes, c'est seulement dans les hautes herbes qu'on se fera attaquer. Et cet équilibre entre ce qui est contrôlé et ce qui est dangereux, il correspond bien à cette envie d'explorer, c'est-à-dire que nous, on doit choisir quand on veut explorer, et ça correspond bien surtout à l'univers, ça fait vivre l'univers dans le gameplay, le fait que, c'est un monde normal, basique, moderne, où il y a aussi des Pokémon, là, c'est pareil. Dans un village, on peut vivre sa petite vie tranquille, si on va sur les routes, on peut se faire attaquer seulement si on va dans les hautes herbes. Donc, soit, faut faire attention pour aller chez mamie, parce qu'on sait qu'il y a un petit lopin de hautes herbes, on peut se faire attaquer. Pour ça que dans Pokémon 1, vous connaissez le même... C'est dangereux de partir tout seul, prendre un Pokémon, c'est ce que nous dit le prof Shen pour nous donner notre premier Pokémon, pour nous donner Carapuce, on peut le dire maintenant, Carapuce c'est le plus cool. Et là du coup c'est intéressant de voir cet équilibre entre phase d'exploration tranquille, phase d'exploration avec possibilité de combat, qui du coup est exploité pour rendre encore plus crédible l'équilibre qui est au cœur de l'univers entre une vie normale et une vie de dresseur de Pokémon. Et ça rend les moments où on peut être attaqué n'importe quand, à savoir les grottes ou quand on est sur l'eau, encore plus incroyable. On sait que là, c'est des... En plus, là, je sais pas, la montagne et l'eau, c'est des éléments un peu plus naturels, justement, du coup, un peu moins contrôlables. Et du coup, c'est pour ça qu'on va se faire attaquer tout le temps. Parce que là, il n'y a pas de route qui a été, on va dire, créée par les humains pour circuler. C'est des endroits qu'on ne peut pas vraiment contrôler et qui, du coup, expliquent pourquoi il y a des Pokémon sauvages partout. Pas que dans les hautes herbes, quand on est dans les grottes ou dans l'eau. Donc, c'est assez intéressant. Ça rend l'univers encore plus crédible de se dire, bah ouais, dans... La route qui relie, j'en sais rien, Jadiel à Bourpalette, parce que là j'ai fini par Kanto, du coup j'ai encore ces noms-là en tête, même si c'est pas ceux de Pokémon Argent, c'est pas ceux de Johto. Il y a des petits endroits où on peut passer si on veut éviter les Pokémon. Et c'est à nous de décider, non non, bah là je suis là pour capturer des Pokémon, je vais dans les hautes herbes. Ou bien de dire, non non, bah là j'ai pas le temps, je vais juste faire une course, du coup je prends pas de Pokémon. Donc c'est assez intéressant l'exploration, comment elle est gérée. Et ouais, comme je le disais, du coup, le truc intéressant, c'est le fait qu'elle soit guidée, contrôlée. Dans Pokémon Argent, j'ai un peu balisé au début, parce que au tout début du jeu, il y a un arbre bizarre qui bloque le chemin, et c'est un simularbre, c'est un Pokémon, un peu comme Ronflex qui bloque le chemin dans Pokémon Rouge et Bleu. Et en fait, le détour pour contourner l'arbre, il est hyper loin, et on met beaucoup de temps à récupérer l'objet qui permet de réveiller, entre guillemets, le Pokémon pour l'affronter. Et j'étais là, mais attends, mais je suis perdu, j'ai raté un truc et tout. Et non, non, c'est normal, le jeu veut que tu fasses un immense détour. Et c'est le même sentiment, même si c'est pas du tout comparable sur plein d'aspects, mais le même sentiment que dans Dark Souls, quand on trouve un raccourci et qu'on se dit, ah ok, j'étais tout là-bas, et là, avec ce petit raccourci, je retourne ici, ah c'est ouf, ça nous fait un peu comprendre l'univers et comprendre et s'approprier surtout notre environnement. Là, c'est pareil, une fois qu'on a pu faire le long détour et ensuite finir par... virer Simularbre, le capturer, on espère, ou Ronflex, hein, c'est la même idée, on se rend compte de tout le chemin qu'on a fait et du raccourci qu'on débloque, et du coup on s'approprie encore mieux la carte et l'univers, et c'est du coup un jeu qui repose sur l'exploration, donc sur l'équilibre entre des endroits sûrs et des endroits moins sûrs, et du coup aussi sur l'exploration au sens, ok, t'es dans un univers, il faut que tu connaisses, que tu t'appropries un peu les routes, les endroits, les passages, et on le fait en t'aidant, en donnant petit à petit. Là, tu peux pas y aller parce qu'il tape encore la capacité coupe, ou là, tu peux pas y aller parce qu'il y a un Pokémon qui bloque le passage. Et quand on a finalement accès à ces nouvelles zones, bah, ça nous permet de les intégrer et de nous approprier l'univers en général. Je me répète un peu, mais franchement, le gameplay hors combat, assez basique, sauf sur l'exploration, qui est le centre du jeu et qui est géré de main de maître, on peut dire. Voilà. Au combat, alors oui, niveau crédibilité de l'univers, c'est un peu bizarre que ce monde chill, moderne, où on vit avec des créatures incroyables, l'utilité première de ces créatures, ce soit de faire des combats. Je suis pas le joueur du grenier, je vais pas faire une blague sur les combats de chiens, ah, trop bizarre, on est un gamin qui fait des combats, blablabla. Bref, vous connaissez ces petites histoires, ces petites dissonances un peu ludonarratives. Effectivement, c'est bizarre, si c'est un univers où on prône la coexistence avec les Pokémon et où la Team Rocket est méchante parce qu'elle les exploite, que nous, on passe notre temps à les faire combattre et que ça soit le sport le plus en vogue dans cet univers. Ok, c'est bizarre. Bref, les combats. Qu'est-ce qui se passe ? Bah, les combats sont cool, voilà, à tout ce que j'avais à dire. Non, mais en vrai, le petit pierre-feuille-ciseau élémentaire où du coup, un Pokémon de type eau va battre un Pokémon de type feu, en tout cas sera plus efficace, et un Pokémon de type électrique sera plus efficace qu'un Pokémon de type eau, bah, c'est un truc assez basique mais qui marche bien, surtout que dans Pokémon Or et Argent, ils rajoutent quelques types de Pokémon, je crois qu'il y a le type acier qui s'ajoute, et en plus certains Pokémon ont des doubles types, par exemple, je sais pas, Lugia, le Pokémon légendaire, il est vol psy, je crois. D'autres Pokémon ont aussi Aquaquack qui doit être eau psy. Donc ouais, il y a des Pokémon qui ont plusieurs types, donc plusieurs faiblesses et plusieurs forces. Donc c'est assez, assez cool, assez grisant en fait. Avec peu de choses, juste une sorte de pierre-feuille-ciseau, avec beaucoup plus d'éléments que juste trois, permet de nous intégrer et de nous faire réfléchir aux stratégies à adopter. Et puisqu'on peut avoir 6 Pokémon sur soi, mais en faire combattre que 1 versus 1, bah on doit avoir une équipe adaptable qui nous permet de réagir à tout type de situation. Et vu que souvent, les arènes Pokémon sont concentrées sur un seul type, on peut réfléchir à nos stratégies, à quel Pokémon on va emmener, etc. Donc non, c'est bien. C'est vraiment un système assez basique, mais très efficace, qui ensuite, vu qu'il repose sur différents éléments et leurs interactions entre eux, est plus dur à continuer sur une vingtaine d'années, parce qu'il y a encore des jeux Pokémon qui sortent aujourd'hui. On connaît, je pense, vous aussi, vous vous souvenez de quelques types et de quelques faiblesses élémentaires. C'est dur, parce qu'après on en rajoute, on en rajoute, on en rajoute. Au bout d'un moment, ça devient un peu compliqué, certes. Mais là, on en est encore à la deuxième génération, à l'époque de Argent, et ça reste gérable. On peut retenir à peu près les différents types et leurs interactions entre eux, et kiffer, et être super fort, et faire des attaques où il y a écrit « c'est super efficace », avec le petit bruit en plus qui fait le « tchac 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 » qui nous dit que l'attaque, elle a vraiment bien marché. Donc c'est trop bien. Les combats sont cool pour ça. Ça se rajoute en plus dans Pokémon Or et Argent la possibilité non pas seulement de donner des objets aux Pokémon, de les soigner avec des potions, mais aussi de leur faire tenir des objets. Du coup, ils peuvent se soigner eux-mêmes ou alors rajouter un petit bonus élémentaire, un petit bonus de défense, etc. Donc il y a encore plus de complexité parce qu'on peut leur donner des objets et ils peuvent en tenir aussi. Donc il y a plusieurs couches. C'est super, franchement, c'est trop cool. C'est aussi un type de combat nouveau pour nous au sens où il est présenté visuellement de façon différente de ceux qu'on a fait jusqu'ici. On a vu le schéma basique dans Dragon Quest et dans FF de combat vu de côté, on va dire, pour résumer. Présentation classique pour les JRPG. On a vu Tales of aussi vu en 2D de côté, mais plus action. Super Mario, c'était isométrique. Là, on voit un combat en 2D, mais pas de côté, où en fait, on est face à face avec une caméra un peu à l'épaule, on va dire, de trois quarts. Je sais pas pourquoi je dis de trois quarts, mais j'ai voulu faire genre, je connaissais des mots, mais je suis pas sûr de ce que je dis. En tout cas, nous, on voit en face de nous le Pokémon qu'on affronte, et notre Pokémon, on le voit de dos. Et c'est un truc assez important. Sugimori, le designer, a pensé à ça, et pour lui, le fait qu'on voit un Pokémon soit sauvage, soit adversaire, de face, ça nous le rend un peu distant, on peut le découvrir, voir un peu son design et tout. Et quand ça devient notre allié, qu'il combat avec nous, on le voit de dos, ce qui permet, selon Sugimori, de mieux les connaître parce qu'on a accès à leur point faible, entre guillemets, leur dos. C'est du coup, il y a la confiance, quoi, et on les connaît de façon plus intime parce que c'est une partie qu'on ne voit pas quand on ne fait que les croiser pour un combat ou essayer de les capturer. Du coup, cette alternance entre vision de face, vision de dos, elle est réfléchie par le designer et elle est permise par cette vue un peu de face, du coup, qu'on n'a pas dans les autres JRPG, qui est assez rare. Parce que dans les tout premiers JRPG, le premier Dragon Quest, à la limite, on les voyait de face, les ennemis, mais on ne voyait pas nos personnages. C'était une vue à la première personne. Là, c'est pas une vue à la première personne, c'est une vue à la troisième personne, mais à l'épaule, un peu au-dessus de notre Pokémon. Du coup, les combats sont aussi intéressants au niveau mécanique qu'au niveau narratif, avec les histoires qu'on se raconte et le lien qu'on a avec nos Pokémon. Pour les mécaniques, ce qui est aussi fou dans Pokémon, c'est le fait qu'on ne cherche pas forcément, à part dans les combats de dresseurs, à tuer l'adversaire, mais à le capturer. Et du coup, le petit équilibre entre « Ah, faut que je l'affaiblisse, qu'il lui reste un PV, mais faut pas que je le tue », il est super. Il est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus challenging. Je trouve pas le mot en français, mais c'est pas grave, vous compléterez vous-même. Que si on devait juste affronter constamment des Pokémon. La capture, c'est un objectif assez grisant parce qu'il faut faire attention. Il faut l'endormir, peut-être le Pokémon, ou bien le paralyser, jouer avec les altérations d'état et tout. Enfin, c'est trop cool. Et il y a en plus de ça, lié à la capture, le frisson incroyable de la Pokéball qui bouge. Et ouais, parce que quand on jette la Pokéball sur le Pokémon, il y a trois petits mouvements de Pokéball. Tudu, tudu, tudu. Clac. Et là, c'est bon, on l'a. Mais si ça fait juste tudu, tudu, bouc, bah là, le Pokémon, il s'est échappé, et c'est la merde, et faut recommencer. Et ce frisson de la Pokéball qui bouge, il est merveilleux. Et il rend les combats vraiment, vraiment fous, quoi. C'est capturer un Pokémon plutôt que l'affronter juste, ouais, c'est trop bien. L'affronter, bah, on revient au truc de pierre, feuille, ciseaux élémentaire, c'est intéressant, les combats d'arène, les combats de dresseurs, ok, super, blablabla. Mais capturer un Pokémon... C'est quelque chose, et vous le savez très bien. Et enfin, truc que j'aurais à dire sur les combats aussi, pour terminer, c'est le système d'évolution des Pokémon. Dans les JRPG qu'on a fait jusqu'ici, on peut grinder, donc voir les jauges gonfler, nos niveaux augmenter, être de plus en plus fort, et kiffer le plaisir de la statistique qui monte, hein. Nous, on en est au niveau 5 encore, donc ça monte petit à petit pour les émissions, mais dans les jeux, ça monte plus vite, heureusement. Et dans Pokémon, ce gain d'expérience, cette amélioration, cette évolution, elle se représente physiquement justement par les évolutions de Pokémon. Donc on peut avoir une traduction physique, une récompense visuelle et aussi dans le gameplay, mais notre Pokémon va évoluer grâce à l'expérience qu'il a acquis. Et cette traduction visuelle, bah, elle fait plaisir, elle nous attache au Pokémon parce que du coup on a vu son chemin et c'est pas juste, c'est un peu plus visuel, un peu plus parlant que juste des statistiques qui montent parce que là il a changé de forme, il a changé de nom même. C'est plus accessible aussi pour en revenir à l'attrait et à la façon dont Pokémon permet à un jeune public ou un public inexpérimenté de rentrer dans le JRPG et dans l'aventure qu'il procure. Là c'est pareil, ça permet de rendre concret, rendre visuel le grind et le gain d'expérience et c'est vraiment malin. Donc ouais, les combats de Pokémon sont super, autant si on les prend comme des combats de JRPG classiques, bah le système est efficace, le système marche bien, il marche à tel point qu'il permet même des combats multijoueurs. Je n'en ai pas parlé parce que j'ai pas eu l'occasion là de jouer en multi, mais c'est une grande part de l'aventure Pokémon, de l'expérience Pokémon, le fait soit d'échanger des Pokémon, soit de combattre d'autres dresseurs. Il y a une scène e-sport de Pokémon qui existe, parce que justement le système il est réglé aux petits oignons, avec toutes ses faiblesses élémentaires, ses objets à donner ou à utiliser. Et aussi le fait que les attaques ne puissent être utilisées qu'un certain nombre de fois. Du coup, peut-être on peut avoir une attaque très puissante, mais avec peu de points de pouvoir. Je crois que c'est les PP. Du coup, il faut faire attention à comment on l'utilise. Il y a plein de petits systèmes qui font que les combats, ils sont excellents. Et si en plus on rajoute à ça le fait qu'on puisse jouer contre un autre humain, et du coup avoir des stratégies un peu plus fortes, et si on rajoute à ça le fait qu'on puisse même capturer et du coup ne pas tuer un Pokémon, le combat offre des possibilités incroyables au niveau mécanique. Et au niveau narratif, bah on y arrive justement, mais Sugimori, Tajiri, toute l'équipe de Pokémon a pensé aussi à la façon dont les combats pouvaient être intégrés à notre expérience de jeu, aux histoires qu'on allait se raconter, dans la façon dont c'était présenté. Un Pokémon inconnu en face de moi, je le découvre, un Pokémon ami, vu de dos, parce que c'est un allié, et qu'il nous fait assez confiance pour nous tourner le dos. Et ça, c'est beau. C'est beau le lien entre l'homme et le Pokémon. Donc ouais, Pokémon, je sais pas si ça reste aussi incroyable niveau mécanique tout le long de la série, parce que je me demande si c'est pas un peu trop confusant au bout d'un moment d'avoir beaucoup, beaucoup de types de Pokémon différents, mais là, pour le jeu qui nous intéresse, l'équilibre est trouvé, c'est super. Donc voilà, bravo. Je sais pas quel dresseur je serais. Est-ce que je serais un montagnard, un top dresseur, un campeur, un écolier? Bonne question. Je pense que je serais un montagnard sûrement. J'ai des épaules, je suis un peu large. J'habite près de la montagne. J'imagine que je serais un montagnard. Sinon, il faudrait que je sois, je sais pas si ça existe dans la nouvelle version, un podcaster quoi. Donc un trentenaire barbu avec des lunettes. Ce qui est une catégorie de personnes qu'on croise beaucoup. Hein. Si on reste dans la catégorie de dresseurs de or et argent, cristal, je suis un montagnard, je pense. Si on imagine une catégorie un peu plus moderne, un podcaster. Un de ces barbus trentenaires qu'on croise partout et qui sont un peu l'équivalent humain des ratatas. Il y en a partout, content au début et au bout d'un moment, on en a marre de les voir. Voilà, bisous à toute la sphère podcastophone française, bien sûr. Dont je fais partie, hein. Attention. J'en ai pas trop parlé, mais elles sont cool. Il y a des thèmes très marquants qui continuent à être utilisés parce qu'ils sont super. Le son de la Game Boy est parfois un peu criard, je trouve, parfois un peu désagréable, mais très très bonne composition. Qu'on doit à Junichi Masuda, qui du coup est connu pour ses super thèmes de combat, d'exploration et tout. Donc, non, très bonne OST qui souligne bien et accompagne bien l'aventure. Voilà, pas grand chose à dire de plus sur la musique, mais vous allez peut-être vous dire, mais Stavro, c'est quoi ton équipe de Pokémon, j'y arrive. Tout ce que j'ai voulu dire, ou de cette petite parenthèse musicale, sur le fait que l'histoire soit fonctionnelle, le fait que l'exploration joue un rôle important dans Pokémon, et en m'appuyant sur des interviews de Sugimori ou de Tajiri, ou de Miyamoto, et la façon dont les combats sont pensés, ça montre que du coup Pokémon c'est un générateur d'histoire qu'on doit faire nous-mêmes. C'est ça le plus important. Et c'est ce que permettent les mécaniques, c'est ce que permet le fait que l'histoire ne prenne pas trop de place. Tout ça est fait pour ça, pour qu'on s'investisse affectivement, émotionnellement. Même la machine marketing permet de vivre dans l'univers plus longtemps et du coup de s'y attacher plus et de pouvoir ensuite agir dessus en jouant. Et en plus, on recroise Red, on recroise Blue, on recroise Pierre et Ondine qu'on voit dans l'animé. Enfin, tout est fait pour nous donner de l'affection pour l'univers, nous donner envie de jouer et de consommer, évidemment, blablabla. Mais en tout cas, le jeu fonctionne grâce aux petites histoires qu'on va se raconter, nous, parce que la grande histoire n'est pas très intéressante ni très développée. Et ça marche. Les designs nous invitent à préférer tel ou tel Pokémon. Les faiblesses élémentaires nous invitent aussi à penser à ça et du coup à construire une équipe qui sera efficace au combat et en même temps de Pokémon qu'on aime bien. Et puis on a envie de tous les capturer parce qu'on a envie d'avoir un Pokédex rempli. L'équipe à laquelle j'ai fini le jeu, alors, moi le starter que je prends c'est Kaiminus. Hein. Il est trop mignon Kaiminus, il est super. Ensuite j'avais aussi un Magneton. Alors, c'est pas le Pokémon le plus funky, mais bon, acier électrique, il résiste bien aux attaques normales. Bref, j'ai appris à l'apprécier. Il est fort, il est fortiche quand même. Puis je l'ai eu en tant que Magnéti, donc je l'ai fait évoluer, donc j'étais content. J'ai eu un Pokémon feu, j'en voulais un. J'aurais bien voulu avoir un Draco feu, mais bon, c'est un peu dur à choper. Donc j'ai eu un Magmar, mais bon, il était trop moche, même si c'était très fort. Fini par avoir un Galopa, hein, un peu plus gracieux, voilà, super. Aussi eu, ensuite, j'ai fini le jeu avec un Ronflex. Le Ronflex, on récupère à Kanto, à la fin du jeu. Mais avant ça, en fait, j'avais toujours un sixième Pokémon un peu nul parce qu'il avait des CS importantes. J'ai longtemps eu Togepi. Alors, j'avais oublié que Togepi, il se transformait en Togetic. Togepi, il est trop mignon. Togetic, il est trop moche. Mais bon, j'avais donné coup de boule, flash, tous les trucs. En fait, c'était juste un Pokémon un peu poubelle qui servait surtout à défrayer les chemins, quoi. Déblayer les chemins plutôt que défrayer. Ce qui, c'est pas un petit comptable qui me défraye quand j'avance, Togepi. Mais du coup, ouais, il manque qui ? Donc, à la fin, j'avais Alligator, Galopa, Magneton, Lugia, hein, évidemment, petit Pokémon légendaire pour se la péter. Hein. Même si je l'avais niveau 40 et quelques, donc c'était pas le plus fort, mais il était là, il était légendaire. Il était officiel. Et surtout, le plus important, et ce qui correspond à ce que veulent les créateurs du jeu, c'est qu'on se raconte des histoires, qu'on se lie d'amitié avec nos Pokémon. C'est ce que j'ai fait avec un mini Draco niveau 13, que j'ai chopé, je sais plus où, dans le Mont Dragon, la Caverne Dragon, un truc comme ça, à Johto. Niveau 13, et je l'ai amené au niveau 55 pour avoir un Dracolos. Ça a été dur de le faire monter de niveau, mais ça valait le coup, et à la fin j'avais un Dracolos, j'adore Dracolos, et ce Pokémon était presque plus important que mon main à la fin, que mon starter, que Alligator, parce que Dracolos, il est mignon, il est trop fort. Et parce que je lui ai fait gagner 42 niveaux et que ça m'a pris beaucoup de temps et que c'était fatigant. Donc tout le jeu vaut pour ce genre d'histoire qu'on se raconte, pour ce genre de choses qu'on investit. Et ça, c'est bien fait. Et ça, c'est beau et ça marche. C'est pour ça que Pokémon, c'est super. Donc ouais, Pokémon, ça tient la route, hein. 20 ans après, même sans avoir 8 ans, c'est toujours un super jeu. C'est vrai que c'est pas les JRPG que j'aime le plus, ceux qui ne racontent que peu d'histoires, mais je ne peux qu'être sensible à la volonté de nous faire créer des histoires et de motiver un attachement affectif et de nous laisser la place de raconter des histoires. C'est pas ce vers quoi je me tourne en priorité, mais ça marche sur moi, ça marche toujours. J'étais encore un gamin quand j'ai affronté Blue et Red. Je suis retourné à Kanto, j'ai vu Pierre et Ondine et leur design de proche de l'animé, ça m'a fait quelque chose. Le jeu avec la mythologie, il est super. Cette histoire que j'ai vécue avec Mini Draco, Draco et Dracolos, elle était puissante. C'est un Pokémon pour lequel maintenant j'aurai plus d'affection, parce que le jeu, je l'ai fini en 42 heures, donc ouais, j'ai dû passer 15-20 heures à grinder mon Draco pour qu'il devienne un Dracolos, quoi. Et c'est vrai que ce temps qu'il faut pour que se développent les histoires qu'on se raconte dans Pokémon fait que c'était un peu dur de le faire dans le cadre de ce podcast par contre. Là j'en peux plus de Pokémon parce que ça m'a pris beaucoup de temps, 42 heures, et au final je l'ai fini avec des Pokémon qui sont pas mes préfs. Peut-être que mon équipe de fin, j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus stylée, mais j'ai pas pris le temps d'aller chercher les Pokémon que j'aurais voulu avoir et tout. J'ai fini le jeu je crois avec 87 Pokémon attrapés, ce qui est rien du tout sur 251, ce qui est très peu. Mais du coup, c'était dur de le faire avec une deadline, certes que je me fixe tout seul, tout le monde s'en fout en soi si je sors mon épisode en retard, mais moi ça m'embête, peut-être ça vous embête aussi en tant que consommateur. Du coup c'était dur de faire un jeu qui demande autant de temps et d'investissement avec une sorte de besoin d'aller un peu vite. Donc c'est la limite un peu de mon exercice, en faisant des jeux, en faisant plein, je peux pas consacrer parfois assez de temps à chaque jeu et leur donner peut-être l'espace qu'ils mériteraient. Donc le jeu, j'ai oublié de le dire, t'invite vraiment, c'est un système qui est introduit dans Or et Argent, à prendre ton temps, parce que il y a une horloge interne qui est gérée, donc tu mets l'heure qu'il est, et certains Pokémon n'apparaissent que la nuit, d'autres que le jour, du coup il faut y jouer à différents moments de la journée. J'ai dû jouer parfois le matin, parfois le soir, parfois l'après-midi, pour essayer d'avoir des Pokémon un peu différents. Et donc ouais, le jeu t'invite vraiment à avoir une sorte de routine avec ce jeu, d'y revenir souvent à des heures différentes. Donc c'est le but en fait, de prendre ton temps, d'y passer beaucoup de temps sur un long moment, et pas de le binge play comme je le fais pour d'autres JRPG. Donc ouais, la démarche que j'ai avec ce podcast peut-être m'a empêché de profiter à donf de l'expérience Pokémon. J'en ai eu la plupart, j'ai pu profiter de moments où j'étais... En fait, vous voyez, je suis en retard dans l'épisode parce que je me suis dit « c'est bon, on te prend pas la tête ». L'épisode sortira un peu plus tard, mais il faut que tu puisses vraiment avoir cette expérience de Pokémon. Pour ça, je me suis embêté, j'ai pris le temps de faire les arènes de Kanto, qui sont en post-game, donc qui ne sont pas utiles. J'avais fini le jeu il y a 20 heures, mais j'ai fait 20 heures de plus pour prendre un peu mon temps et tout. J'aurais dû en faire 20 heures de plus pour compléter mon Pokédex. Ou en tout cas, essayer d'avoir un score un peu moins ridicule que 87. Je ne l'ai pas fait parce que je voulais que ça sorte, parce que là, j'en peux plus de jouer à Pokémon, je veux jouer à autre chose. Mais du coup, voilà. J'avoue les limites de ma démarche. Ça n'empêche pas que ce soit un super jeu, un grand jeu, et que dans notre village des JRPG, ce serait quoi Pokémon? Bah, ce serait évidemment un jardin municipal, hein. Le jardin où tu vas avec tes parents, ce serait un peu la zone de confort. Il y a ton petit Peach qui est dans le sac de ta mère ou de ton père. Et après, hop, tu vas un peu dans l'inconnu, trouver un insecte, jouer avec des copains, parce qu'il y a aussi un côté multijoueur, échange et tout. Donc ouais, ce serait le jardin municipal où tes parents t'emmènent, et tu peux te faire mal sur le toboggan. Mais après, tu peux retourner voir ta mère pour qu'elle te mette un petit mercurochrome.
Mercurochrome, le pansement des héros.
Et du coup, c'est la même idée que Pokémon qui alterne et qui joue sur l'équilibre entre les moments de tranquillité, serein, un peu rigolo, et les moments d'exploration un peu plus grandiose et un peu plus effrayant. Voilà. Et ben voilà, un épisode de plus en moins. Ils se font attendre, mais ils sont toujours aussi super. Enfin, j'espère. Du coup, la prochaine fois, l'épisode 6, on va parler de Jade Cocoon. Jade Cocoon. C'est un JRPG assez obscur sorti sur PS1 qui concerne aussi la capture de monstres. Donc on va pouvoir comparer ça à Pokémon. C'est un jeu auquel j'ai joué quand j'étais tout petit. Je m'en souviens plus très bien, je l'ai commencé là. C'est un ovni assez incroyable, on en parlera, mais du coup on pourra comparer avec Pokémon, parce que c'est un jeu qui s'en est clairement inspiré, qui a essayé de faire un truc en rapport avec ça, dans la lignée de Pokémon, parce que c'était à la mode à l'époque, c'était la Pokémania, on vous rappelle. Du coup on jouera à ça le mois prochain, un jeu un peu plus obscur, on alterne un petit peu les gros blockbusters et les jeux moins connus. Et à part ça, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Bah mettez... Alors, vous pouvez me suivre sur Twitter... C'est niveau sup, le hat. Vous pouvez m'envoyer des mails à l'adresse podcast.niveausupérieur@gmail.com. Des remarques, des questions, etc. Vous pouvez aussi financer un peu le podcast si vous voulez. Avec Ko-fi, il y a le lien dans la description du podcast et sur Twitter et tout. Je remercie chaleureusement Léo, premier auditeur à avoir balancé 1€ et quelques. Donc merci beaucoup. J'ai peu dire que j'ai gagné de l'argent grâce à ce podcast. Peu, mais quand même, ça me fait plaisir. C'est plus le geste qui me touche que l'argent, même si l'argent fait plaisir aussi, bien sûr. Et enfin, bah, mettez des commentaires sur iTunes, je sais que c'est fatigant, mais c'est la seule façon pour un podcast de se faire connaître, hélas. Les commentaires sur iTunes, les commentaires 5 étoiles, hein, bien sûr. C'est comme ça que vous nous aidez, nous, les petits artisans podcastiers. Du coup, s'il vous plaît, je sais que c'est chiant, mais faites-le. voilà, vous avez plein de solutions pour m'aider. Et après, du coup, je n'ai pas balancé le lien Facebook là parce que j'y vais jamais. Donc, c'est plus Twitter pour être au courant de ce qui se passe. Par exemple, les gens qui me suivent sur Twitter ont pu voter pour le jeu qu'on fera à l'épisode 7, qui est du coup Mother ou Earthbound. C'est grâce à un sondage Twitter qu'on en est arrivé là, à ce jeu-là. Du coup, voilà, suivez-moi sur Twitter. Faites des petites critiques du podcast sur iTunes. Si vous avez 1 ou 2 euros, bah merci de me les donner. et puis voilà, on se retrouve le mois prochain, peut-être même avant. Je vais essayer d'en sortir un autre plus rapidement, mais je fais pas de promesses en l'air. J'essaye de me dépêcher. Même parfois, je me mets trop de pression, je pense, pour sortir l'épisode vite. Donc, ça prend du temps, mais sachez que je n'oublie pas. Je suis là, nous sommes toujours ensemble dans cette aventure incroyable. Et puis, bah, n'hésitez pas. N'hésitez pas à ne pas hésiter, parce que je sais plus quoi dire. Enfin, si, je sais quoi dire. Il me reste un truc à dire. Et c'est le plus important. C'est que il faut faire votre maximum dans la vie comme dans les jeux pour toujours atteindre, essayer d'atteindre en tout cas, le niveau supérieur.
Je veux être le meilleur de tous les dresseurs sans aucun. Miaus, Onyx, Agaillou, Galopard, Magneton, Roflex, Restoplasma, Sagueneux, Poissy Rêve, Carapace.